Depuis leur arrivée sur le plateau des Petites Roches et jusqu'à aujourd'hui, les établissements hospitaliers de Saint-Hilaire-du-Touvet ont concentré de nombreuses histoires et expériences de vie. À l'époque, des paquebots vous proposent de découvrir les témoignages en mosaïque de ceux et celles qui ont fait la vie des établissements. Voici l'épisode 5, enregistré au détour d'une matinée de septembre. Passé à faire sonner couloirs, tubes, gravats, cuves et tuyaux, salle de bain éventrée, piscine noyée dans le bleu du ciel et humidité ruisselante des plafonds de jonc gorgés de pluie. Avec les musiciens et improvisateurs Alain Lafuente et Jean-Pierre Sarzier, qui nous ont partagé quelques vécus sensibles sur les établissements. Voici d'ailleurs Alain, qui nous parle de ses premiers liens avec les lieux.
Le grand-père maternel de mes enfants, il s'appelle Pierre de Geurs, et c'était vraiment une figure du plateau. Il a fait plein de choses sur le plateau. C'est un personnage assez improbable, qui à la fois était jardinier ici, mais il avait fait des études au petit séminaire, et puis... Après, il est parti du petit séminaire, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé. Ici, mais en même temps, il était sculpteur. Il a fait de l'archéologie, il a découvert des vestiges dans des grottes ici, qui sont maintenant au musée de l'ancien archevêché à Grenoble. Des vestiges paléolithiques, et puis après, il a fait un club d'astronomie. Il a acheté un gros télescope pour faire des observations astronomiques. Qu'est-ce qu'il a fait encore ? Il a peint, il peignait vachement. Et il jouait de l'orgue aussi, il jouait de l'orgue à l'église de Saint-Hilaire. Et donc il accompagnait les chœurs et tout ça, etc. Donc ouais, c'est un personnage assez extraordinaire. J'étais en seconde et en fait on a eu un assistant, enfin tu sais, un stagiaire qui est venu quoi, en prof de français et qui était un mec en fauteuil en fait. Et du coup il nous a mis en rapport avec des gens ici, qui étaient au CMUD ici. Et on passait des après-midi ensemble à Grenoble parce qu'ils s'emmerdaient comme des rats morts et ils avaient qu'une envie, c'était de descendre en ville, quoi. Et donc du coup, voilà, on passait des après-midi ensemble. Enfin, il y avait quand même une différence d'âge parce qu'ils étaient plutôt fac, majeur et tout ça, etc. Puis nous, on était en seconde, on était un petit peu des petits jeunes. Mais on a passé plusieurs journées comme ça. Puis il y a des gens que j'ai revus d'ailleurs assez longtemps aussi, des gens qui étaient en fauteuil là. Et eux, leur gros jeu, c'était des motards pour la plupart qui étaient tombés. Et donc ils étaient un peu casse-cou toujours parce qu'ils avaient toujours 20 ans quoi. Et donc du coup ils faisaient des courses de fauteuils dans les couloirs avec dérapage, virage sur une roue, et il y en a même qui descendaient la route qui descendait jusqu'à Grenoble en fauteuil avec les virages et tout, etc. Tout ça, quoi. À fond la caisse et fond les ballons, quoi. Et après par contre j'y suis venu régulièrement, donc avec aussi dans le même cadre que Jean-Pierre, on était donc à Roche-Plane dans le service oncologie soins palliatifs, et on venait avec des danseuses. Donc au départ c'était la compagnie François Vérune qui avait monté ça, et donc il y avait au départ ils avaient fait ça que avec des danseurs en fait, et puis après ils ont mélangé danseurs et musiciens. Donc on allait par deux dans les chambres pour proposer une improvisation aux gens qui le souhaitaient, un musicien, un danseur ou une danseuse.
Et on avait un moment collectif aussi où on faisait une impro dans une salle qui était tout au bout des couloirs et où les gens qui voulaient venir pouvaient venir. Il y en avait qui étaient en fauteuil, il y en avait qui étaient, pas ici pas trop, mais avec des qui pouvaient presque pas se déplacer. Donc c'était des soignants ou des bénévoles qui venaient, qui les amenaient pour qu'ils voient une impro, toujours une impro, une danseuse, parce que c'est toujours des danseuses.
Ouais, c'était
et un musicien. C'était assez genré comme. Et je me souviens d'une petite mamie qui était là et qui n'a jamais accepté qu'on aille dans sa chambre, qui n'a jamais accepté de voir une seule impro et qui a jamais accepté non plus d'aller voir les mini spectacles qu'on faisait au bout du couloir. Et sauf le dernier jour en fait, à un moment où elle allait sortir, c'était un peu exceptionnel qu'elle sorte, parce que ça voulait dire qu'elle n'allait pas mourir ici. Et le dernier jour, elle est venue. Et en fait, il n'y avait jamais personne qui lui avait dit que ce n'était pas payant. Et en fait, elle n'osait pas. Puis elle ne parlait presque pas. Elle avait une trachéotomie, donc elle ne pouvait pas parler. Et puis un jour, elle est venue voir. Et des fois, il y avait des patients qui avaient des visites. Et donc, ils amenaient la famille et qui venaient voir aussi, puisque ils étaient là, c'était ouvert. Donc, des fois, on se retrouvait avec une salle pleine. C'était un vrai spectacle. C'est vrai que les premières remarques, c'était toujours sur les danseuses. Mais qu'est-ce que vous êtes souple, mais qu'est-ce que vous êtes jeune.
Maintenant, c'est en bas, donc à Saint-Martin-d'Hères. Hein. Et là, on n'a plus que des musiciens, on est quatre musiciens en fait. Alors qu'avec la danse, il y avait un rapport très, très physique qui s'instaurait, et puis cette espèce de contraste entre des danseuses en pleine possession de leurs moyens et de leur corps, et ces gens qui étaient souffrants, du coup, ça crée une tension, tu vois, qui est intéressante, quoi. Je pense que ça crée vraiment quelque chose qu'on n'a pas avec la musique, qu'on n'a pas directement avec les gens.
Il y a des gens qui voulaient. Enfin, il y a des gens pour qui, pour pouvoir leur faire un spectacle, donc on leur faisait des spectacles rien que pour eux dans leur chambre. Et il y en a avec qui il fallait commencer par discuter 10 minutes, un quart d'heure, qui nous racontent pourquoi ils étaient là, qu'est-ce que ça changeait pour eux le fait d'être ça. Parce que c'est des gens, bah, ils avaient été. Il y a des gens qui étaient assez jeunes, hein, qui avaient été normaux, enfin. Qui avaient eu une vie normale, et à partir du moment où la maladie leur tombe dessus, tout est maladie en fait. Toute leur vie est centrée autour de ça. Mmh. Et c'est presque du jour au lendemain. Et il fallait qu'ils nous racontent ça pour qu'après on puisse être dans ce rapport-là de spectacle et de choses. C'est complètement étonnant. À un moment, ils sont dans la vie, ils sont dans le monde, ils regardent les informations, etc. Enfin voilà, il y a les problèmes du monde, etc. Et un jour, il y a la maladie, et leur monde, il se résume vachement à ça, quoi. Et de temps en temps, nous, on arrive de l'extérieur, mais c'est un extérieur qui est complètement rêvé. Et puis, finalement, l'extérieur compte plus. Enfin, c'est assez étonnant en termes de vie. Ça relativise vachement, nous, même quand on parle, nous, d'un problème politique, etc. Le mec qui est dans une chambre et qui ne sait pas s'il pourra en sortir un jour, lui, il n'en a rien à foutre. Mais à un point qu'on n'imagine pas. Puis ça pourrait être nous. Enfin, il y a des gens, moi je sais que ça m'est arrivé, déjà ça m'est arrivé de demander à avoir une pause pendant un mois ou deux, parce qu'il y a des gens dont les vies avant étaient trop parallèles à la mienne, des gens qui avaient des enfants comme moi et qui d'un coup se retrouvaient dans ce truc-là, et je me suis vu là à leur place, quoi. Et en même temps, il faut, enfin, par rapport à eux, c'est pas du tout notre rôle. Et puis nous, on n'est pas soignants, on sait pas. À aucun moment, on savait. Ça faisait partie des critères au départ, c'est qu'à aucun moment, on devait savoir de quelle pathologie il souffrait. On s'en doutait un peu que c'était grave et que. Voilà. Mais à aucun moment. Enfin, moi, je sais que. À aucun moment, on m'a parlé techniquement de la pathologie d'un seul patient.
Moi, ce que j'aime bien, c'est pour ça que je continue à le faire d'ailleurs, hein, c'est que effectivement, ce rapport, cette proximité avec la mort, du coup, permet d'avoir une échelle. Alors, pour certains, c'est vrai que la maladie renferme, mais c'est pas vrai pour tous. Et il y a un endroit où ça ouvre et ça redonne une échelle, comment dire, de valeur aux choses qui, pour moi, est plus juste, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, le dernier problème politique, quand tu sais que peut-être t'en as pour 15 jours. Ça devient beaucoup plus relatif, en fait. Et donc, on se recentre sur l'essentiel. Et c'est-à-dire, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une espèce de rapport humain qui est très vrai. C'est-à-dire que c'est des gens qui, bah, s'ils ont envie, ils ont envie. S'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie, quoi. Parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre, hein, parce qu'il n'y a pas... Et donc, il y a des gens qui n'ont pas la place parce qu'ils sont ensevelis sous la douleur ou sous la maladie. Sous la peur aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup ça. Mais il y en a certains pour qui... À travers ça, il y a une ouverture qui se fait. Et on se ressent vraiment sur l'essentiel. Et ce que j'aime vraiment, moi, en allant dans les chambres, c'est vraiment la partie que je préfère dans les interventions. C'est vraiment cette espèce d'intimité, quoi. Il y a des moments un peu magiques, pratiquement chaque fois que j'y suis allé. Il y a un moment, je me suis dit, bon, je ne suis pas venu pour rien, quoi. Parce qu'il y a eu une espèce d'échange humain, d'une profondeur et d'une qualité qui est rare et qui est précieuse, parce que c'est... Enfin, pour moi, c'est juste, c'est quand même pour ça qu'on est sur Terre, quoi. C'est pour avoir ce type de rapport, ce type de choses qui, pour moi, est fondamental. Et presque, je dirais, quelque part, c'est une nourriture pour moi. C'est presque ça. Presque, il y a de ça. Parce que je me retrouve en rapport avec des gens dans une espèce de simplicité et d'authenticité qui est, qui en tous les cas, m'est précieuse, quoi. J'ai souvenir de gens, par exemple d'un mec qui sortait de prison, qui jouait de l'accordéon, d'avoir fait des trucs avec lui assez incroyables, quoi. Et voilà, et c'est quelqu'un que jamais j'aurais pu rencontrer en dehors de ce cadre-là, quoi, et surtout pas cette façon-là, et surtout pas faire de la musique avec lui, quoi. Alors c'était compliqué, hein, l'accordéon, c'est devenu de plus en plus compliqué, mais vraiment c'était vraiment super. C'est que c'est un cadre où la personne, elle peut se dire ça, quoi. Elle est dans un cadre où, bon, on va pas la faire chier, quoi. Elle aime pas la musique, elle aime pas la musique, quoi. Et donc elle dit, vous êtes gentil, mais j'aime pas la musique, ciao.
Sortez maintenant.
Et c'est, voilà, et ça j'aime bien, parce que c'est franc direct. Les gens, ils sont juste, voilà. Quand ils ont la possibilité encore d'être vraiment avec eux-mêmes, c'est franc du collier, quoi. C'est pas, il y a tout un tas de barrières et de, comment dire, de politesse sociale qui sont un peu gommées, quoi.
Ouais.
Ça, c'est pas mal.
Non, enfin, moi, je sais qu'il y a, bon, ça change un peu de sujet, mais il y a une chose fondamentale, c'est que quand on est artiste, quand on fait un spectacle, qu'on monte un spectacle, on a toujours la pensée que on le monte et qu'on investit sur l'avenir et que meilleur je travaille et donc du coup plus tard ça ira mieux et je fais ça parce que du coup ma célébrité va être supérieure et voilà, et on investit en permanence.
Plan de carrière et tout ça.
Plan de carrière. Et quand on va jouer devant quelqu'un qui de toute façon, alors qui sera peut-être mort dans une semaine, c'est maintenant et c'est que maintenant. Et ça sera pas, et on n'investit pas sur l'avenir, on investit uniquement dans le moment présent pour la personne qui est là et uniquement pour elle. Mmh. Et ça, c'est assez étonnant, ce rapport au temps, mais qui est aussi avec une échelle plus grande, celle de nos vies, parce que là, bah, j'investis, ouais, etc. Et si jamais je suis suffisamment aimé pour qu'on me construise une statue en bronze sur la place du village, ça changera rien au fait, ouais, que je serai mort, ouais, quand je serai mort. Mmh. En réalité. Et là, on s'en rend encore plus compte, parce que là, on est là-dedans. Sans compter quand c'est des gens, bah, quand on est en gériatrie, etc., il y a des gens qu'on va voir une semaine, on revient la semaine prochaine, ils se souviennent absolument pas que vous êtes venus. Parce qu'ils savent qu'ils se souviennent pas, donc vous arrivez et ils vous prennent dans leurs bras, parce qu'ils pensent que vous êtes peut-être leur neveu. Et vous faites le morceau de musique, et c'est super bien. Et la semaine d'après, vous arrivez, et ils se souviennent pas qu'ils vous ont déjà vu, et puis ils en ont absolument rien à carrer de la musique, et c'est la même personne. Quelqu'un qui peut pas bouger, qui est sur un lit, qui est appareillé de partout, bah on va pas jouer de la même façon qu'une petite mamie qui est super joyeuse, et on va vraiment changer les façons de faire. Il faut essayer de ne pas être invasif. Moi, je sais que c'est pour ça que arriver avec une clarinette, mais c'est carrément impossible, c'est trop. C'est presque, ça ressemble à un fusil, quoi. C'est énorme, on a ce bidule dans les mains, non, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que pour moi, c'était la clarinette en bambou. J'ai appris à jouer de cet instrument pour l'hôpital. C'est arrivé que la danseuse, elle danse uniquement avec ses mains, qu'il n'y ait que les mains qui bougent, parce que dans le contexte, c'était pas possible qu'il y ait plus, quoi.
On fait pratiquer l'improvisation, en fait, hein, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'aime de plus en plus, en fait, vraiment dans le fait d'être dans l'ici et maintenant, en fait, et dans ce rapport voilà, de proximité, comme ça. C'est quelque chose vraiment que j'aime beaucoup, que j'aime... que je trouve presque plus nourrissant que le fait d'être sur une scène maintenant. Enfin, ça, voilà, ça, je suis de moins en moins attiré par le fait d'être sur une scène. J'aime bien, hein, mais c'est pas, je suis plus à la recherche de cette proximité. Et donc, ça me fait jouer dans plein de choses, que disait Jean-Pierre tout à fait aussi, c'est-à-dire qu'aller chercher dans les sons, les petits... des petits instruments, des choses très fines, pour une façon à pouvoir s'adapter complètement à ce qui est présent dans la chambre au moment où on y est, quoi. Donc ça, c'est une façon de faire, dont on n'a pas l'habitude, et donc du coup, on apprend beaucoup, quoi.
Ben moi, j'enseigne l'improvisation, et sur du solo improvisé, la note qu'on fait, ça n'a strictement aucune importance. On est tout seul. La seule chose qui compte, c'est qu'il y a une personne qui est là et on va lui donner du plaisir, parce que c'est ça qui se passe. Et c'est la seule chose, concrète qu'on a pour bâtir notre improvisation. Finalement, ça suffit. Parce que je vais faire quelque chose, je joue quelque chose. Si je joue quelque chose de différent, la personne qui est en face de moi, elle va se dire, il fait n'importe quoi. Ça veut dire que tout le temps, quand je fais une impro, la seule chose à laquelle je pense, c'est comment mon impro elle va être reçue. Et c'est ça qui va guider, donc ça veut dire que je vais faire des choses cohérentes pour qu'on me comprenne. À un moment, on va y en avoir marre et la personne va se dire « je comprends comment il fonctionne ben, ». Juste avant, en fait, il faudra que je change. À un moment, il va falloir que je fasse une surprise. Et finalement, toute la structure de mon impro, elle ne dépend que de ça, du rapport à la personne. Alors la personne, là, elle est réelle. Quand on est sur une scène, c'est une personne imaginée. On imagine le gars qui est en bas. Évidemment, on se trompe, il n'est pas comme on l'imagine, mais c'est ça qui va nous tendre, et en fait, ça modifie complètement notre rapport à la musique qu'on fait sur scène tout le temps, parce que c'est que ça. C'est la seule base, et en même temps, c'est pas du tout une base, c'est pas du tout intellectuelle et déconnectée de la réalité, ça n'est que la réalité, la perception de l'autre. Et c'est vrai que quand vous jouez pour une personne qui est spéciale, parce que dans un hôpital, la personne, elle est toujours spéciale, l'image que vous en faites, qui est fausse, évidemment, mais l'image que vous avez, ce que vous avez discuté avec la personne, c'est ça qui va vous guider et ça va changer complètement la musique. Et toute la musique, elle est faite que pour lui.
Parce que c'est vraiment là-dessus, c'est vraiment sur une relation empathique. Et voilà, c'est vraiment là-dessus que ça se joue. Et on est clairement des musiciens quand on intervient à Rocheplan. Et les soignants sont vraiment les soignants, c'est ceux qui ont les bouches blanches et c'est ça. Mais par l'empathie, c'est l'endroit où ça se rejoint, où il y a tout qui se rejoint. Et on arrive vraiment à être à la fois en contact avec les gens et apporter quelque chose qui n'est pas de l'ordre du soin, mais qui est de l'ordre, en anglais on dit care, mais qui est vraiment de l'ordre de la présence en fait, et c'est une forme de soin, mais c'est pas un soin thérapeutique dur, ancré, médical en fait, on va dire, avec la blouse blanche quoi, et le stéthoscope, mais c'est vraiment de l'ordre du soin, du care, du prendre soin de la personne, de la relation, de la chambre, de l'espace. Et de nous aussi, dans tout ça. C'est vraiment de cet ordre-là. Alors, en parlant de prendre soin, eh ben, je trouve ça, justement, je fais le lien avec les murs, là, maintenant. Il y a une espèce d'absurdité de voir tous ces grands bâtiments se dégrader comme ça et être abandonnés. Et c'est déjà ce que je ressentais, parce qu'on savait à la fin, quand on intervenait à Rocheplan ici, que ça allait déménager, que ces bâtiments allaient être abandonnés, et une espèce de sentiment d'absurde, en fait, quoi. Et donc, du coup, je suis content de revenir là pour ça, en fait. Dans cette démarche de prendre soin de ces bâtiments, mais de cette histoire et de tout ce qu'on a pu traverser, et du coup, de pas le laisser disparaître comme ça, quoi, enfin, sans... partir en fumée comme si ça n'avait pas d'importance en fait. Ouais, donc il y a quelque chose de violent, enfin, voir l'état dans lequel c'est aussi, enfin, c'est assez étrange quoi.
Ah, puis moi j'ai une autre histoire avec le lieu. J'ai joué pendant plus de 15 ans avec un pianiste qui s'appelle Stéphane Damiano, et au moment de ce qui est, je pense, l'apogée artistique de ce qu'on a fait en duo, puis c'est une relation très forte. Quand c'est juste un duo qui tourne, on a peut-être fait 500 concerts ensemble. Et au moment de notre troisième album, en fait, il y a son frère qui a eu un grave accident de voiture et qui est venu et qui est resté plusieurs mois ici. Et qui a été reconstruit Et Stéphane, il est venu ici un nombre incalculable de fois. Il travaillait ici en même temps. Et il est venu voir son frère et il a passé des heures et des heures ici. Et
quand tu dis travailler, il travaillait comme nous en fait. Il venait aussi.
Et notre spectacle, il doit beaucoup au fait que Steph soit venu voir son frère ici. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux qu'il a composés pour lui. Et il y a une chose. Enfin, ici, on est dans une région où il y a plein de casse-cou qui font du ski, qui volent avec plein de trucs bizarres, qui tombent parfois et qui se cassent des jambes, voire plus. Et le fait que les gens ils se reconstruisent ici et pas dans un hôpital en ville, je pense que c'est quand même. Il y a quand même quelque chose. Ici, c'est un lieu, on est dans la montagne, on est dans ce lieu-là, et ça reste connecté à ces pratiques-là, et à où est-ce qu'ils habitent, et où est leur passion. Et leur passion, elle n'est pas à Saint-Martin-d'Hères. Et ce truc-là, pour moi, c'était clair que si la reconstruction de tous ces gens qui se sont blessés en montagne, elle se fait ici, c'était pas par hasard. Alors que maintenant, c'est dans un lieu qui est purement technique. Certes, Kiko qui le fait bien, mais on sait bien que guérir, se réparer, etc., c'est pas qu'une opération technique, c'est pas que recoller des os. Toutes les choses ont une fin, et un lieu il a une fin, et alors l'hôpital de Saint-Martin-d'Hères, il aura une fin encore plus, parce que les façons de construire qu'on a maintenant, c'est fait pour avoir une certaine durée de vie et après être détruit et être désamianté, et puis pour qu'il n'y ait plus rien à la place. Et bon.
Écoutez à l'époque des paquebots deux fois par mois sur les ondes 89 et 87.8 FM. Vous pourrez également écouter et réécouter ces émissions en podcast, connaître les dates de diffusion en vous rendant sur le site internet de Radio Grésivaudan www.radio-grésivaudan.org.